au quotidien avec Clotilde Seille.
Bonjour mes amis, comment allez-vous aujourd'hui en ce vendredi? Nous sommes quel jour? Donc le vendredi 21 août 2015 et je suis en votre compagnie et en moi-même accompagnée par l'ami Rémi Hermonzo aujourd'hui pour vous faire la lecture des journaux jusqu'à midi sur Canal M. Enfin bon, midi moins le quart, j'aurais dû dire, puisqu'à midi moins le quart, c'est Christiane Campagna qui va venir nous faire la lecture du bulletin du handicap. Alors aujourd'hui dans les journaux, un autre incident incrimine la bâtonnière du Québec. Et puis le piratage de l'intime, c'est la chronique de M. Lagacé qui revient sur ces pirates qui s'amusent dans, sur certains sites de rencontres, notamment à... Ah ben, peut-être à obtenir des informations qu'ils ne devraient pas obtenir et à les faire savoir à d'autres. C'est pas joli du tout, du tout, du tout. Et puis, Monsieur Haussan, oui, il est revenu au Québec, mais non, il ne fera pas de politique. Un type de cancer du sein serait-il surtraité? C'est dans Le Devoir. C'est également un sujet sur lequel je vais m'arrêter. L'accident dans le tunnel La Fontaine, on a vraiment eu chaud hier, ça aurait pu être bien pire. Madame Blais qui tire sa révérence. Nous irons aussi au chevet d'un père malade qui lance un cri du cœur. Donner au suivant en famille un très très beau texte dans Le Droit puisque nous irons aussi voir ce qui se dit dans les journaux régionaux. Accident, police, vélo, l'apparence de justice. C'est un éditorial aussi à vous lire aujourd'hui. Bien sûr, en début de deuxième heure, on s'arrête un peu sur la campagne électorale. Il sera question de sport, de Drogba avec lequel on ne veut pas aller trop vite à l'Impact de Montréal, de ce coureur de 100 mètres qui s'appelle De Grasse et de son petit je ne sais quoi. Et puis à l'international, M. Le Pen a été exclu de son parti et Alexis Tsipras démissionne, peut-être pour mieux revenir. Bien sûr, il y aura aussi quelques sujets culturels, dont l'autopsie d'un succès littéraire et puis deux comédiennes à Paris et l'usine C qui a 20 ans. Et puis je vous le disais à la toute fin de cette émission, on finira donc avec Christiane Campagna et son bulletin du handicap. Alors je commence ce matin même avec quoi ? Avec la presse peut-être ? Tiens, allons-y avec la presse et cette grande photo, c'est le gros titre aujourd'hui, cette grande photo de Madame la bâtonnière du Québec, Maître Lu Chan-Kwong, qui a fait l'objet d'une plainte pour vol à l'étalage au Simons, au Carrefour Laval et qui aurait été impliquée dans un second incident à la succursale de la place Sainte-Foy, selon l'avocat du barreau qui réclame l'accès aux documents de preuve détenus par la maison Simons. C'est de cet autre incident dont il est question quasiment dans tous les journaux, mais là, à la presse, c'est vraiment le gros titre. Également, Valéant, la pilule rose n'excite pas les investisseurs. L'acquisition de Sprout Pharmaceuticals, Sprout, aurais-je dire, Pharmaceuticals, qui fabrique un comprimé pour les femmes en panne de désir, fait plonger l'action de la société pharmaceutique lavalloise. Élection fédérale 2015, oh mon Dieu, sondage croppe la presse. Et j'imagine que vous allez tomber en bas de votre chaise comme je suis tombée moi-même en bas de la mienne. Savez-vous qu'un Québécois sur cinq ignore qui dirige le pays? C'est quand même assez hallucinant, mais je vous jure que c'est vrai. Je vous reparle de ce sondage croppe la presse en début de deuxième heure. Et puis la justicière, ça c'est un homme d'affaires qui a décidé d'écrire un livre pour faire du fric. C'est-à-dire qu'avant, il s'est dit « Ok, qu'est-ce qu'il va faire vendre ?» Alors finalement, il est tombé sur un sujet un petit peu scabreux qui peut faire un peu penser à 50 nuances de gris. Et ça marche, ça se vend comme des petits pains, ça s'appelle la justicière. C'est assez gore, merci. Et puis fermeture hier du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, autre journée infernale en vue. Fermé hier après l'incendie d'un véhicule récréatif, le pont-tunnel rouvrira complètement ce matin de 5h30 à 9h, mais une seule voie sera ensuite accessible en direction nord pour permettre le remplacement de câbles électriques endommagés. Ça a vraiment été une fin d'après-midi d'enfer. Et le pire, c'est qu'en fin de semaine, mes amis, je vous annonce que sur le pont Jacques-Cartier, on ne va rouler que sur une voie. Dans les deux sens. Alors, une voie dans les deux sens, Hippolyte-Lafontaine, une voie dans les deux sens, Jacques Cartier, ne reste plus que finalement Champlain et Victoria. Oh là là, il va pas faire bon aller dans le sud. C'est justement là que j'ai décidé d'aller. Oui. Bon, et puis aussi Monsieur Couillard, Madame Marguerite Blais, qui a décidé de quitter la vie politique. J'aurai l'occasion de vous en parler ce matin également. Elle a déclaré « J'ai besoin d'un défi et le défi n'arrive pas ». Le clin d'œil de Stéphane Laporte, juste avant de commencer à vous lire ce qui se dit au sujet de la bâtonnière du Québec. Alors, le clin d'œil de Stéphane Laporte ce matin, c'est « Après Uber ». Place à l'auto-taxi. Le client se reconduit lui-même. Ouais, bah oui. Alors, Isabelle Mathieu, qui écrit dans Le Soleil, ça a été relayé ce matin par la presse, nous écrit donc que la bâtonnière du Québec, maître Lu Chang-Kuang, aurait été impliquée dans un second incident, dans un Simon, cette fois-ci à la succursale du centre commercial Place Sainte-Foy, selon l'avocat du barreau qui réclame tout le dossier d'enquête. Maître Raymond Doré a laissé tomber cette petite bombe en fin de journée d'audience hier au palais de justice de Québec, lorsque les journalistes l'ont questionné sur sa requête pour obtenir tous les documents de preuve détenus par la maison Simons. Il y a quelques jours, l'avocat a demandé, par voie de citation, à comparaître tous les documents pour tout événement mettant en cause la bâtonnière, maître Lu Chang-Kuang, pour appuyer sa défense en vue du procès fixé au 5 octobre. Il visait notamment à obtenir les bandes vidéo du magasin ainsi que les rapports des enquêteurs du commerce. Selon maître Doré, la maison Simons a répondu qu'elle pouvait assigner à la cour 3 témoins pour 2 événements distincts. Deux témoins seront liés à la plainte pour vol à l'étalage du 17 avril 2014 au Carrefour Laval et un troisième pourrait comparaître relativement à un autre événement survenu au Simons de Sainte-Foy. L'avocat du barreau ne disposait d'aucun autre détail sur cet incident survenu à une date différente. Il a toutefois indiqué que cet événement n'avait rien à voir avec l'achat des jeans en litige à Laval. J'ai la certitude que ce n'est pas le cas parce qu'on me l'aurait dit. Insiste maître Doré. L'avocat de la bâtonnière, maître Jean-François Bertrand, aurait déjà indiqué au barreau qu'il allait s'opposer au dépôt de ces éléments de preuve du Simons. Un juge entendra cette requête la semaine prochaine. Selon maître Doré, les explications de la bâtonnière sur sa distraction au Simons de Laval ne tiennent pas la route. En fin de soirée, par voie de communiqué, maître Kuang s'est dit indigné des propos tenus en point de presse par maître Doré. Elle a déclaré « Je n'ai jamais volé quoi que ce soit » et l'épisode d'avril 2014 est survenu à la suite d'une distraction, a-t-elle réitéré. « Il n'y a jamais eu quoi que ce soit d'autre, je n'ai jamais eu vent d'un quelconque écart, on ne m'a jamais abordé, rabroué ou intercepté en lien avec un événement qui pourrait ressembler de près ou de loin aux allégations sans fondement de cet avocat. » Les propos diffamatoires de maître Doré a également dit maître Lu Chang-Kuang sont indignes d'un avocat d'expérience qui doit faire honneur au système de justice plutôt que de le discréditer en lançant de très graves accusations sans preuve. Pour sa part, l'avocat du barreau a rappelé hier que le directeur des poursuites criminelles et pénales n'aurait pu faire bénéficier la bâtonnière du traitement de non-judiciarisation s'il n'avait pas eu la conviction de pouvoir la faire condamner. J'imagine que le dossier de Simon, c'est pas mal solide et c'est pour ça que je le demande, dit-il. Selon maître Doré, il ne fait aucun doute que mettre en lumière les démêlés de la bâtonnière avec le système de justice est d'intérêt public. C'est une personne qui exerce une charge publique, qui exerce la plus haute fonction, parce qu'il faut le rappeler ça, au sein du barreau, qui est l'interlocutrice de la ministre de la Justice. Elle doit faire des recommandations pour la nomination de tous les juges, rappelle-t-il. Il y a énormément de responsabilités qui incombent à une bâtonnière. Cette bâtonnière qui réclame sa réintégration immédiate. Alors, voyez-vous, c'est un sujet qui rebondit beaucoup, ça. C'est loin d'être terminé. Restez là, je vais vous lire la chronique de Patrick Lagacé sur le piratage de l'intime. Alors, il nous parle de Ashley Madison, qui est un site de rencontre pour adultes désirant avoir une relation extra-conjugale. Et ne voilà-t-il pas que des pirates informatiques ont percé les défenses du site et révélé des informations personnelles sur ses utilisateurs. On parle donc de 32 millions de personnes dont les numéros de carte de crédit, les adresses de courriel et les préférences en matière sexuelle ont été rendues publiques. Alors en sous-texte, bien sûr, c'est la plus grande fuite, le nombre de personnes désirant tromper leur tendre moitié. Je sais que vous gloussez, mais oui, justement, je viens de glousser, mon cher Patrick Lagacé, et je vous entends glousser, dit toujours Lagacé, depuis quelques jours. On glousse, on rit. Il est question de sexe, après tout, il est question d'infidélité. Évidemment qu'on glousse et qu'on rit. Collectivement, nous sommes encore comme des ados face à la sexualité. Nos gloussements devant le piratage des données de Ashley Madison le prouvent encore. Et jusqu'à maintenant, la couverture médiatique a fait écho à l'immense gloussement collectif qui a accueilli la nouvelle du piratage. Et tant pis, pour les gens dont les données ont été piratées et mises en ligne, ai-je lu de la part d'internautes québécois et américains, ils n'avaient qu'à pas sauter la clôture. Eh bien, c'est exactement la même morale castratrice qui guide les talibans quand ils lapident un villageois pogné à lever la burqa de sa voisine. Non, je ne dis pas que vous allez lancer des roches à votre beau-frère qui couraille si vous découvrez son nom dans les bases de données piratées de Ashley Madison. Je dis que vous frétillez devant quelque chose qui ne vous regarde pas, dit Lagacé. Devant ce piratage, lui, il dit qu'il frique. Alors on se calme, je n'étais pas membre du site Ashley Madison, mais je suis un membre de ce village global numérique. Oubliez la morale une seconde, oubliez l'objet du piratage, un site favorisant l'adultère et qui s'en vantait. Oubliez le côté salace de l'affaire. Le piratage de Ashley Madison, c'est quelque chose comme le grand zéro de la fin de la vie privée. Et c'est ça qui me fait freaker, dit Lagacé. Quand Wikileaks cause des fuites de documents secrets, ceux-ci ont un intérêt public manifeste, par exemple celui d'exposer le décalage immense entre ce que nos dirigeants nous disent publiquement et ce qu'ils pensent et font en privé. Traités commerciaux, invasions, espionnage, Wikileaks expose les tromperies à grande échelle de ceux qui nous dirigent. Mais les pirates qui ont ciblé Ashley Madison ont ciblé des citoyens privés dont les dissimulations n'ont aucun effet sur la société en général. L'adultère est une trahison intime qui ne regarde que deux personnes, en fin de compte. La terrifiante nouveauté du piratage des données de Ashley Madison, oui, est bien là. Elle est dans ce piratage de l'intime à grande échelle. La fin de la vie privée, conclut M. Lagacé, c'est pour demain. Peut-être même après-demain. Aujourd'hui, ce sont les infidèles qui sont jetés en pâture sur la place publique. Demain, ce sera vous, ce sera nous. D'autres intimités seront ciblées, piratées, révélées. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Gloussez pendant que vous le pouvez encore. J'aurai l'occasion de revenir évidemment dans le journal La Presse très prochainement dans cette émission. Mais en attendant, on va aller voir aussi ce qu'on nous dit à la une du Devoir. Alors, tout d'un coup, on avait annoncé son retour et on se disait « Oh, 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 peut-être bien qu'il va revenir en politique ». Je parle bien sûr de Jean-Martin Haussan qui avait claqué la porte du Parti québécois de Pauline Marois en 2011 avant de fonder son propre parti indépendantiste Option nationale et de partir pour Londres, dont finalement il est revenu. Mais il ne fera pas de politique et c'est d'ailleurs à la une du Devoir ce matin que j'ai sous les yeux, du moins que j'avais sous les yeux, mais je vais le retrouver, avec une grande photo de M. Haussan et puis cette légende Haussan de retour, mais pas en politique. Et en légende, en dessous la photo, Jean-Martin Haussan a fait son choix, ce sera la société civile. L'ex-chef d'Option nationale n'envisage pas de retour en politique, préférant concentrer ses énergies au chantier de l'économie sociale. Je vais vous lire dans quelques secondes ce qui se dit dans ce papier-là. Mais avant, ailleurs, à la une de ce Devoir du jour, de ce vendredi 21 août, bien sûr, on ira en Grèce où M. Tsipras veut finalement un nouveau mandat, lui qui vient de démissionner. C'est évidemment, tout le monde en tout cas le pense ici, pour mieux revenir. Jimmy Carter, le cancer de Jimmy Carter, l'homme de 14 ans, serait atteint également au cerveau. On voit une photo de lui. Il est quasiment méconnaissable, M. Carter. Sculpture. Ah oui, vous savez, cette sculpture dialogue avec l'histoire qui n'a pas été dynamitée à Québec, mais qui a été en tout cas ravagée par les pelles mécaniques. Et c'était quand même un cadeau de Madame Hidalgo, la maire de Paris à Québec. Ça avait fait bien grand bruit. Et là, on en reparle encore parce que figurez-vous que Labo m'avait promis de reconstruire dialogue avec l'histoire. Avant de détruire cette sculpture, le maire de Québec, écrit Isabelle Porter à Québec, Régis Labeaume, avait promis à la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, qu'elle serait reconstruite au même endroit, a appris Le Devoir, une promesse qui paraît nettement moins solide aujourd'hui. Soyez assurés que l'œuvre sera réinstallée à l'identique et dans le même esprit que son artiste le souhaite, écrivait le maire en février dans une lettre obtenue en vertu de la loi d'accès à l'information. Dialogue avec l'histoire reprendra sa place dans une atmosphère et un environnement bonifié. Oups, la sculpture a été littéralement pulvérisée, donc on voit mal comment elle va retrouver sa place. Le procès Duffy, également à la une du Devoir, nouvelles embûches pour Harper, écrit Marie Vastel. L'ancien conseiller juridique de Stephen Harper était fort attendu au procès de Mike Duffy pour cause. Benjamin Perrin a réitéré jeudi avoir été témoin du fait que l'actuel bras droit de M. Harper, Ray Novak, savait que Nigel Wright avait payé la dette du sénateur. M. Perrin a aussi mis en doute l'interprétation qu'avait Stephen Harper des critères d'éligibilité des sénateurs. Et puis, il y a cette photo touchante, troublante, de cette femme complètement ravagée. Cette femme, je veux parler de Colette Roy-Laroche, et si je dis qu'elle est ravagée sur la photo, vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'elle était photographiée entourée de pompiers dans les premières heures de la tragédie de juillet 2013, alors que sa ville était dans un état cataclysmique à la suite de cet accident de train qui a fait 47 morts. Eh bien, cette dame, qu'on appelait aussi la dame de granit, tire sa révérence, ce qui donne lieu à un éditorial de José Boileau que je vais vous lire aussi dans quelques secondes. Et puis, je reviendrai bien sûr sur cette dame de granit dans la Tribune, dans le journal régional La Tribune, un peu plus tard à l'émission. Alors, avant de lire l'éditorial de Madame Boileau sur la dame de granit, Madame Roy-Laroche, d'abord quelques mots sur Monsieur Haussan, donc l'ex-député, qui dit vouloir rester à long terme au chantier de l'économie sociale. De retour d'un exil de 2 ans à Londres, l'économiste de 45 ans a été confirmé jeudi dans ses nouvelles fonctions de directeur général du chantier de l'économie sociale. Cet organisme sans but lucratif fait la promotion de plus de 7000 entreprises qui emploient 150 000 personnes et injectent 35 milliards par année dans l'économie québécoise, plus que l'industrie minière ou le secteur de la construction. « C'est gentil d'avoir pensé à moi », a répondu Jean-Martin Haussan lorsqu'un journaliste lui a rappelé que Pierre-Carl Péladeau l'accueillerait volontiers au Parti québécois. J'ai reçu des appels de quelques formations, pour être honnête. Mon choix était clair, je veux servir la société civile. C'est le choix que j'espère être pour le long terme. J'ai 2 jeunes enfants et ça ne cadre pas du tout avec une carrière politique, a-t-il ajouté. Jean-Martin Haussan affirme qu'il continuera de suivre de près les travaux de l'Assemblée nationale et qu'il ne renie d'aucune façon son engagement passé en politique. En tout juste 5 ans, de 2008 à 2013, Haussan, comme l'appellent ses admirateurs, s'est fait connaître comme un des plus redoutables promoteurs de la souveraineté du Québec. Jacques Parizeau, d'ailleurs, nous rappelle-t-on ici dans ce papier signé Marco Fortier, considérait son Monsieur Haussan comme son héritier politique. Alors voilà, donc la politique a perdu M. Haussan, mais l'économie sociale a gagné M. Haussan, et c'est aussi une bonne nouvelle. Alors voilà, Madame la mairesse de Lac-Mégantic tire sa révérence et José Boileau qui écrit ce matin dans son éditorial « Les éloges pleuvaient jeudi à l'annonce du retrait de la vie politique de la mairesse de Lac-Mégantic, Colette Roy-Laroche. Rares sont les élus qui ont eu à faire face à une tragédie comme celle qu'elle a traversée et qui dure 2 ans plus tard et qui tiennent le coup sans perdre leur droiture ni leur sang-froid. Le défi sera immense pour qui la remplacera. » En dépit de sa renommée qui dépasse les frontières du Québec, en dépit de sa popularité sur la place publique, Colette Roy-Laroche est d'abord et restée d'abord et avant tout citoyenne de Lac-Mégantic jusque dans l'annonce de son départ comme mairesse. C'est au journal local, l'Écho de Frontenac, qu'elle a réservé sa seule entrevue à ce sujet et pour la première fois, elle fait état de sa grande, de sa très grande fatigue. « Je suis pas mal au fond. Un rare coup d'émotion. » La dame de granit, comme on l'a surnommée, celle qui tient à bout de bras la reconstruction de sa ville depuis le sinistre du 6 juillet 2013, celle qu'on n'a jamais vue crouler même au pire moment de la tragédie ou lors du décès inattendu de son mari début février, peut donc enfin se permettre de montrer que non, elle n'est pas restée imperméable à tout ce terrible tourbillon dans lequel elle a été entraînée il y a 2 ans, alors même qu'elle s'apprêtait à prendre sa retraite. Ce tourbillon-là se mesure assez mal hors de Lac-Mégantic. Le Québec a vu Colette Roy-Laroche, sur toutes sortes de tribunes, réconfortant ses concitoyens, recevant de l'aide, interpellant les compagnies ferroviaires et les gouvernements, donnant des entrevues, récoltant les hommages. Mais pendant ce temps, la vie devait continuer à Mégantic. Sauf que la vie n'avait plus rien de pareil, car tout y prenait soudain le visage du deuil. 47 morts en une nuit, pour moitié de jeunes adultes, un centre-ville historique et fréquenté en partie détruit, en partie inaccessible et toute une population ébranlée par une catastrophe inimaginable, inimaginée dans un coin de pays qui n'avait jusque-là pour caractéristique que sa tranquillité sur fond de paysages harmonieux et de ciel étoilé. Il fallut donc faire face au deuil, mais aussi à la colère envers tout ce qui avait conduit à une telle tragédie, de la négligence de la MMA, propriétaire du terrain qui a déraillé au relâchement réglementaire dans un contexte où on ne le réalisait pas. Le transport du pétrole a envahi nos rails, sans guerre d'encadrement. C'était déjà énorme pour un conseil municipal, mais il y avait encore l'après. Comment rebâtit-on une ville blessée à mort où le train traverse toujours les lieux sinistrés en sifflant, rappel constant du drame? Il n'y a pas de livre d'instruction, pas de guide, répondait la mairesse Roy-Laroche en entrevue au journal de Montréal en juillet. Non, pas de balises. Mais que d'attentes de la part des citoyens, que d'avis divers, que de commentaires. Alors naturellement, après l'étape de la solidarité est venue celle des questions. Puis des critiques. Elle dit, Madame Boileau, pour terminer son papier, qu'il est certain que des erreurs ont pu être commises ces 2 dernières années. Colette Roy-Laroche est une mairesse d'exception, pas une sainte femme. Elle le disait elle-même il y a quelques jours à des citoyens qui la pressaient d'en faire plus dans le dossier de la voie ferrée, dont le piètre état inquiète. « Je vais faire mon possible, mais je ne fais pas de miracle », disait-elle. Que son remplaçant, sa remplaçante, soit partisan de la continuité ou du brassage de cash pour que tout aille au plus vite et avec moins de contraintes. Il devrait garder en tête cette phrase. Lac-Mégantic aurait besoin de miracles, mais ils ne viendront pas. On ne redresse pas une ville en criant ciseaux, les décisions ne peuvent faire l'unanimité. Le vrai pouvoir est au loin, à Ottawa ou à Québec. Tout prend du temps et toute la population est lasse d'une peine qui va, hélas, encore durer. Pour passer à travers, il y a d'autres choix, conclut Madame Boileau, dans le devoir que l'humilité, la droiture, le calme et l'intégrité. Le modèle existe. Il s'appelle Colette Roy-Laroche. Lac-Mégantic doit mesurer sa chance de l'avoir eue à sa tête. Et puis l'ancien président américain et prix Nobel de la paix, Jimmy Carter, 90 ans, a annoncé jeudi lors d'une conférence de presse chargée d'émotions qu'il entamait une radiothérapie pour traiter de petites tumeurs cancéreuses au cerveau. On l'apprend également dans Le Devoir, ça fait même la une, affichant durant 40 minutes une grande sérénité et faisant preuve de beaucoup de précision dans ses explications médicales. Le 39e président américain, c'était de 1977 à 1981, artisan des accords de Camp David, a expliqué que son cancer, décelé lors d'une opération destinée à retirer une tumeur au foie, s'était propagé dans son cerveau. « Je vais recevoir mes premières radiations pour les mélanomes cet après-midi », a déclaré M. Carter, qui fait partie des quatre anciens présidents américains toujours en vie avec George W. Bush, le père, le fils, et non pas le Saint-Esprit, mais Bill Clinton. Et puis, restons dans le domaine de la santé avec ce papier également paru ce matin dans le Devoir. Ça nous vient de la presse canadienne et plus précisément d'Hélène Brunswell à Toronto. Avec une photo à l'appui où on voit un sein de femme échographié. Et on nous dit en légende qu'il y aurait donc un type de cancer du sein qui serait surtraité. Plusieurs femmes reçoivent des traitements non nécessaires pour un cancer du sein dit de stade zéro. Et c'est ce que suggère une nouvelle étude canadienne. Les femmes qui subissent une mastectomie simple ou double ou des séances de radiothérapie pour un carcinome canalaire in situ ou CCIS, in situ ou in situ, n'augmentent sans doute pas leurs chances de survie, avancent les chercheurs. La vaste majorité des patientes, près de 97%, devraient être toujours en vie 20 ans après avoir reçu leur diagnostic, selon une étude menée par des scientifiques du Women's College Hospital de Toronto et de l'Université de Toronto. Bien que 3,3% des femmes diagnostiquées meurent de leur cancer, les traitements agressifs ne semblent pas avoir d'effet sur le taux de mortalité associé à la maladie. Avec le CCIS, les cellules cancéreuses sont observées dans les canaux mammaires. Le traitement actuellement préconisé pour le CCIS est l'ablation de la portion du sein touchée et le traitement par radiation pour réduire les risques que le cancer revienne ou se propage. Certaines femmes souhaitent prendre encore davantage de précautions et optent, on le sait maintenant, pour l'ablation d'un ou des deux seins. Un éditorial accompagnant l'étude indique que les découvertes devraient mener à un adoucissement de la femme de la façon dont les femmes atteintes du CCIS sont traitées. Ce n'est pas une urgence, ce n'est tout simplement pas une urgence, a déclaré la docteure Lisa Esserman qui signe l'éditorial en entrevue téléphonique. Nous devons mettre fin au sentiment d'urgence, être plus réfléchis, commencer à générer de nouvelles approches et à les percevoir comme de la prévention. Pour Mme Esserman, qui dirige le Centre pour la santé des seins de l'Université de Californie à San Francisco, l'étude vient appuyer la notion voulant que les femmes atteintes du CCIS n'aient tout simplement pas besoin d'une opération. Je vous rappelle que c'est Clotilde Seille au micro de Canal M. C'est l'émission au quotidien qui se prolonge. Lorsque je reviens dans quelques minutes, ce sera pour aller feuilleter avec vous le Journal de Montréal et les quotidiens régionaux.
Au quotidien, avec Clotilde Seille.
Alors, je suis en train de regarder la une du Journal de Montréal, où on fait état de la lutte, les luttes de la rentrée. On parle de radio, Gravel contre Arcan, Cloutier contre Salvaille, et Clotilde contre qui alors? Non, mais c'est ça. Donc, ça fait la une ce matin. Nouvelle stratégie pour Eugénie Bouchard, apparemment, pour relancer sa carrière. Il y aurait une nouvelle stratégie dans l'air. Et puis, le gros titre, c'est ce camion, cette camionnette récréative qui a donc pris feu dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine hier au moment de l'heure de pointe. Ça aurait pu, donc c'était immensément dangereux, mais surtout ça aurait pu causer littéralement, non seulement ça a causé l'enfer sur les routes, mais ça aurait pu être un drame épouvantable. Et heureusement, ça a été éviter. C'est d'ailleurs ce qu'on nous raconte en page 5 dans le journal de Montréal. On a joué avec le feu, c'est clair. Et selon l'infraction, le conducteur devrait écoper de 9 points d'inaptitude et d'une amende de $500 avec les frais. C'est ce qu'a expliqué Mario Tremblay, le porte-parole à Contrôle routier Québec, qui compte 25 ans de métier. L'infraction en question est liée aux 3 bonbonnes de gaz se trouvant dans le véhicule ainsi que dans la remorque qu'il tirait et qui servait de cantine. Ces dernières totalisaient 225 livres et dépassaient largement la limite permise. La Société de l'assurance automobile du Québec ne permet aux usagers de la route de transporter que 2 bonbonnes de 46 litres, environ 40 livres. Dans leur véhicule, alors que là, je vous rappelle qu'il y en avait 225. Si elles avaient explosé, ça aurait été une catastrophe, ça aurait pu être très, très grave. Toutefois, ce n'est pas le propane qui a causé l'incendie, mais plutôt un problème mécanique à première vue. Selon le conducteur, il y avait de la boucane près du moteur et le couple est sorti du véhicule avant qu'il s'enflamme, a expliqué Luc Robillard, chef aux opérations au service de sécurité incendie de Montréal. Personne n'a été blessé, mais le véhicule récréatif est une perte totale. La Sûreté du Québec et Contrôle routier Québec n'étaient pas en mesure de dire hier si des accusations de négligence pourraient ou non être portées. Il faudrait réunir plusieurs éléments pour déterminer s'il y a eu négligence, a expliqué M. Tremblay. C'est que les usagers de la route ne sont pas autant sensibilisés à la réglementation que les compagnies. Il faut leur rappeler l'importance de vérifier ce qu'ils transportent. En attendant, ça a créé un bouchon monumental, mais vraiment monumental. Je connais quelqu'un qui est bénévole ici et qui vient de Saint-Lambert. Donc, il est vraiment juste de l'autre côté du pont. Il a mis 1h30 pour venir jusqu'à chez nous, nous qui habitons de l'autre côté du pont Jacques-Cartier. Donc, c'est vraiment... c'était infernal. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant en fin de semaine parce que je vous rappelle qu'à cause des dégâts qui ont été provoqués dans le tunnel, on ne pourra circuler que sur une seule voie dans les deux sens, sous le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Et la même chose sur Jacques-Cartier. Depuis, je ne sais plus si c'est ce matin ou à partir de ce soir, jusqu'à lundi matin. Une seule voie aussi sur Jacques-Cartier, à l'aller comme au retour. Vous savez quoi? Je vais aller dans le sud. Hein? Ben dans le sud, je veux dire, un petit peu dans les cantons de l'Est. Je pense que je vais prendre le bus. Je sais pas, une idée comme ça. Et oui, ça arrive. Il y en a qui ont gagné le gros lot, mais alors sous l'eau. Des chasseurs de trésors ont fait une cueillette historique. Lors d'un voyage en Floride, ils ont trouvé pas moins de 350 pièces d'or espagnoles qui reposaient au fond de l'eau depuis 300 ans exactement. C'est ce que rapporte le Mirror. Le Mirror, on va l'appeler comme ça. Le trésor a été perdu quand des bateaux espagnols ont sombré lors de leur voyage à partir de la Havane à destination de l'Espagne. C'était le 30 juillet 1715 et les bateaux ont été pris au piège dans une tempête et se sont échoués près des côtes de la Floride. Les 350 pièces, dont 9 extrêmement rares, ont une valeur, vous vous tenez bien, de 4,5 millions de dollars. William Bartlett, 51 ans, un des plongeurs qui participait à la recherche, a affirmé que l'or avait l'air d'être tombé dans l'eau hier. Non, mais c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Allez, on revient chez nous, on retrouve les pieds sur terre, pauvres de nous qui avons du mal à gagner notre croûte et à payer nos impôts. Et on revient aussi à la vie politique, alors que tous les journaux en font état, et le Journal de Montréal aussi. Ce matin, l'ex-ministre députée libérale Marguerite Blais tire sa révérence. L'ex-ministre et actuelle députée libérale de Saint-Henri-Sainte-Anne, Marguerite Blais, tire sa révérence. Les derniers mois de l'ancienne animatrice de télévision n'ont pas été faciles. Madame Blais a perdu son conjoint, décédé d'un cancer du cerveau. C'était en mars dernier. Et puis, elle a passé plusieurs mois, bien sûr, à son chevet, on l'imagine. Et le bruit courait depuis un certain temps que la députée libérale souhaitait quitter la politique. Marguerite Blais, qui a toutefois nié à plusieurs reprises ces rumeurs, au bureau du Premier ministre, on a préféré ne faire aucun commentaire. Mais selon plusieurs sources, elle aurait récemment manifesté son désir de prendre du galon dans le gouvernement Couillard. Passionnée du sort réservé aux aînés, elle voulait être ministre, elle voulait un défi, nous a-t-on confié. Mais si certains prédisaient son retour au Conseil des ministres pour récupérer le ministère des aînés et ainsi décharger la ministre Francine Charbonneau de certaines responsabilités, le Premier ministre Philippe Couillard ne semble pas pressé de remanier son cabinet. Élue pour la première fois en 2007, Marguerite Blay a été ministre responsable des aînés sous le gouvernement de Jean Charest jusqu'en 2012. Elle a droit à une indemnité de départ de 149 000 dollars. Donc, Madame Marguerite Blay, qui tire sa révérence aussi. Et puis, également dans le journal de Montréal, en page 15, on voit la photographie d'une famille à qui, en apparence, en tout cas, tout sourit. Et c'est loin d'être le cas. Papa, maman et leurs deux enfants. Et le papa s'appelle Sébastien Bourdon. Il a 35 ans. Il souffre d'un cancer appelé liposarcome. Il aimerait pouvoir utiliser un médicament récemment autorisé pour le traiter. C'est un résident d'Ormstown. Il se bat pour avoir accès à ce médicament méconnu des médecins. Le père de famille, qui a lancé un cri du cœur sur Facebook pour avoir accès à ce médicament qui pourrait allonger sa vie, devra continuer de livrer bataille auprès des médecins pour y parvenir. Il a donc 35 ans. Il a appris hier que le traitement pour lequel il se bat est disponible, tandis que ses médecins l'ignoraient. Le père de famille d'Ormstown avait lancé un cri du cœur sur les réseaux sociaux mercredi dans une vidéo devenue virale. Il y interpellait directement le ministre de la Santé, Gaëtan Barrette, pour signifier que le seul médicament qui pourrait l'aider, selon lui, était autorisé en Europe, mais non au Canada. « Depuis 4 ans que j'endure la douleur, je vois ma femme et mes enfants, je vois la souffrance dans leurs yeux. Moi, je veux une chance, je veux vivre », souffle Sébastien Bourdon dans la vidéo. Monsieur Bourdon, qui souffre d'un liposarcome, qui est un cancer très rare, qui peut être fulgurant. Déjà en 2011, les médecins lui ont retiré une tumeur de la taille d'une aubergine à la jambe, explique-t-il au journal. Après une courte période de rémission, le cancer est revenu en 2013. Il essaie de garder un semblant de vie normale pour ses deux garçons de 5 et 13 ans et pour l'enfant qu'il aura en mars prochain avec sa conjointe. Pour l'instant, les médecins prescrivent des traitements de chimio mais ne gardent pas grand espoir selon lui. Pourtant, le traitement Yondelis, qui est homologué par la Commission européenne depuis 2007, permettrait d'augmenter la survie du patient pendant de nombreux mois. Je vous invite à rester là parce qu'il y a aujourd'hui un éditorial, ou plutôt un blog, je devrais plutôt dire ça comme ça, de Régent Parent, qui est un syndicaliste et qui est un blogueur au Journal de Montréal, qui signe un papier qui s'intitule « Justifier l'aide médicale à survivre » avec un point d'interrogation. Et Régent Parent revient donc sur le drame que vit en ce moment cet homme de 35 ans. Qui voudrait pouvoir utiliser ce médicament qui s'appelle Yondelis, sans avoir cependant l'assurance d'ailleurs que ça fonctionne, mais les médecins l'ignorent, ce traitement-là, ou du moins, enfin bon, font-ils semblant ou pas, ça je ne veux pas polémiquer, mais en tout cas, ils l'ignorent. Et Régent Parent qui dit ce matin qu'on ne s'y trompe pas, le traitement est dispendieux et les pronostics de guérison pour un liposarcome avec ce médicament sont faibles. Cependant, il peut prolonger la durée de vie de quelques mois à quelques années, selon les données recueillies, tout en reconnaissant qu'elle demeure fragmentaire. C'est une véritable question de société qui se pose à notre ministre. Combien sommes-nous prêts à payer pour maintenir en vie, sans certitude de guérison, des malades qui coûtent cher à l'État mais qui espèrent vivre le plus longtemps possible dans l'espoir de la découverte du remède qui les sauvera définitivement? Nous nourrissons une vision idyllique du médecin qui soigne et sauve des vies en omettant qu'il se fait quotidiennement des choix dans les hôpitaux sur les traitements poursuivis ou non avec les patients. Nous parvenons à oublier que certains meurent à l'urgence, faute de ressources et de la priorisation des cas qui en découlent. Ces situations alimentaient l'inquiétude des opposants au projet de loi de l'ex-ministre Véronique Yvon. Ils appréhendaient une renonciation précipitée au prolongement de la vie et une trahison de l'essence même de la médecine qui est de l'entretenir. Ils craignaient qu'on incite des gens à se laisser mourir à cause de motifs budgétaires. Malgré toutes les bonnes intentions et les craintes de certains, nous devons reconnaître que la médecine et notre système de santé demeureront confrontés à des contraintes économiques. Nos praticiens continueront d'être appelés à faire des choix difficiles pour préserver la santé du plus grand nombre, mais la vie des uns et des autres ne devrait pas être une option avec laquelle on badine. Sébastien Bourdon n'est pas pressé de mourir et il mériterait la même compassion de la part du ministre Barrette que celle manifestée par la ministre Yvon à l'égard des personnes agonisant dans la souffrance. Vivant dans un des trois pays où les médecins sont les mieux rémunérés au monde, il ne faudrait pas que les citoyens en meurent.
Excès, font gaffe à tout et se surveillent de près. Avoir un corps parfait, c'est un sacerdoce, mais leur capitale santé mérite des sacrifices. Ils boivent de la bière sans alcool, elles mangent pas de viande, ça donne du cholestérol. Ils boivent leur café décaféiné avec du sucre et sucrifié. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. Elle met de la crème anti-âge, qu'elle combine avec un doux gommage, qui restructure en profondeur les macromolécules, en hydratant le derme contre les rides et les ridules. Comme il redoute l'effet peau d'orange, elle a eu un rameur pour leurs 10 ans de mariage. Il dit qu'il aime le sport, pas la compétition. C'est quoi ses coupes, ses médailles, bien en vue dans le salon. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto et boire des apéros. Les cheveux blancs des vieux, les enfants dépeignés, les rides au coin des yeux, les doigts dans le nez, le bordel, le désordre et le bruit, le pas bien rangé, le ça peut plus durer à notre santé. Des fois un criminel allume une cigarette, elle le fusille du regard et court vers la fenêtre. Elle dit ah de l'air, c'est vivifiant, et aspire à plein poumon tous les bons gaz d'échappement. Il a des bombes qui vaporisent du poison contre tous les insectes de la création. Il faut éradiquer tout ce qui apporte des maladies. Il a des doutes sur ses voisins, mais les tuer c'est interdit. Et ses voisins, j'en fais partie. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. Et l'odeur du tabac, me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros. Est-ce ma faute à moi?
Dans les journaux régionaux, je vais commencer par le droit parce que j'ai très envie de vous lire cette très jolie histoire que nous raconte Denis Graton ce matin. On parle d'une maman de trois jeunes enfants qui est fonctionnaire fédérale, qui a décidé de prendre une année sabbatique au moins pour passer du temps génial avec ses trois petits cœurs. Et puis cet été, ben là, ils n'ont pas arrêté pique-nique, baignade, enfin bon, ça n'arrête pas. Mais à un moment donné, elle a décidé de mettre un holà sur toutes ses activités ludiques et estivales parce que elle a vu passer une annonce sur Facebook disant que le centre alimentaire d'Elmer a le ventre vide. C'est une famille qui vient d'Elmer et qu'il a besoin d'aide. Alors cette maman, cette mère de famille, lit ça, elle se sent interpellée, et puis elle décide qu'elle passe à autre chose. Elle dit, moi, je suis généreuse pendant le temps des fêtes, mais c'est comme si j'oublie que les gens doivent encore se nourrir le reste de l'année. Alors cet été, j'ai décidé d'agir et d'aider, et j'ai transformé cette forme d'aide en activité familiale. Alors, c'est une visite à Saunders Farm qui a été annulée, qui a été remplacée avec les sous économisés par une visite au Dollarama. Bon, on peut toujours retourner à Saunders Farm, dit-elle, l'an prochain. Et une fois rendue à ce magasin, à un dollar ou plus, comme on les nomme, Madame Laplante a laissé ses enfants choisir la plupart des denrées et des produits. Et tout parent vous dira que laisser un enfant choisir à sa guise ce qu'il veut dans un magasin peut s'avérer pour lui une activité des plus excitantes et emballantes, surtout dans un magasin à un dollar. Même nous, les adultes, allez, avouons-le, on adore ça. Bon, ok, alors je serai toute seule à l'avouer. Pardon, excusez-moi. Alors donc, et les deux fillettes, alors évidemment, elles ont eu un plaisir fou à choisir. Le tout petit, il a qu'un an et demi. Alors, il était un peu jeune pour faire ça, mais alors, les deux gamines, elles ont eu un plaisir fou à choisir brosse à dents, shampoing, des craquelins, des pâtes, des sauces, des fèves, voilà, et j'en passe. En moins de 30 minutes, le panier était plein. Et les emplettes terminées, ça a été cap sur le centre alimentaire d'Elmer. Quand nous sommes arrivés, 17 mamans, au centre alimentaire, il y avait une file de gens qui attendaient pour faire des provisions. Une petite fillette d'environ 3 ans s'est approchée de ma grande et elle s'est mise à jouer avec elle en la chatouillant. Une employée du centre nous a alors expliqué que cette cocotte avait un trouble de langage, donc elle ne parlait pas et que sa mère lui parlait en signe. Puis elle m'a confié que la nourriture que nous avions apportée allait lui être bien utile. Sur le chemin du retour, une des deux petites, qui s'appelle Erel, a demandé « Maman, la petite fille qu'on a vue voir, elle va avoir la nourriture qu'on lui a apportée ?» Et sa maman, Myriam, qui lui dit « Oui, mon trésor. » Erel qui dit « Oh, ben, je suis contente. Et quand nous n'aurons plus de nourriture, elle va nous en donner à son tour ?» Du haut de ses 5 ans, elle avait compris bien des choses, ma belle Harry, a dit sa mère en souriant. Myriam Laplante est photographe. À la suite de cette visite au centre alimentaire d'Elmer, elle a lancé un défi à ses amis Facebook, toute famille qui allait donner des denrées et des provisions à ce centre et qui se faisait prendre en photo devant l'endroit devenait admissible pour une séance de photos gratuite. Eh bien, 13 familles ont répondu à l'appel. Myriam Laplante a été si touchée par leur geste qu'elle a décidé que tout le monde gagnait. Chacune de ces familles sera donc invitée gratuitement à une mini-séance de photos professionnelles. Allez-vous récidiver l'an prochain ? A demandé Denis Graton à Madame Laplante avant de partir. Elle a répondu « Mais bien entendu, et plus d'une fois par année. » N'est-ce pas les filles ? Et les filles de répondre en cœur « Oui !» Oh, c'est vrai que j'avais entendu ça il y a quelques semaines, mais jamais personne n'en avait touché un mot dans les journaux, du moins ceux que je feuillette tous les jours du lundi au vendredi. C'est de Jean-Simon Gagné, c'est une chronique que j'ai extraite du journal Le Soleil à Québec. Jean-Simon Gagné qui se demande « Faut-il sauver le commandant Cousteau ?» Sale temps pour les héros, dit Jean-Simon Gagné. Si ça continue, il faudra inventer une clé pour leur remonter le moral, comme disait un célèbre dessinateur. Avant, il restait au moins le commandant Jacques Cousteau, un père du documentaire sous-marin, un arrière-grand-père de l'écologie, toujours le vieux grincheux préféré des Français, même des années après sa mort. « Si les crevettes élisaient un pape, ce serait lui », disait-on. Mais ce genre de politesse, c'était avant la rediffusion à grande échelle du documentaire « Le monde du silence », qui a été tourné en 1954. Ces jours-ci, grâce au pouvoir du web, le public redécouvre avec stupéfaction les méthodes de Cousteau à ses débuts. Son équipe fait d'abord exploser un récif de corail avec de la dynamite, tuant des centaines de poissons. Plus loin, elle achève un baleineau à coups de fusil. Et juste au cas où cela ne suffirait pas, elle massacre des requins avec tout l'entrain de moustiques se jetant sur d'imprudents baigneurs à la peau blême qui croyaient gagner du temps en coupant par le petit boisé de sapin sur l'interminable chemin de camping. À l'époque, Le monde du silence ne choquait personne, dit M. Gagné. Le film a même obtenu la Palme d'or du Festival de Cannes et l'Oscar du meilleur documentaire. Mais 60 ans plus tard, plusieurs images sèment la consternation. Le commandant Cousteau qui fait mal aux poissons. C'est aussi révoltant que si Mickey faisait breveter une trappe à la souris révolutionnaire. Bon, d'accord, la mystique Cousteau prend l'eau. Mais rien ni personne ne pourra ébranler celle de Winston Churchill. Pas touche à l'ancien Premier ministre britannique. Pas touche à la voix qui a symbolisé la résistance des Anglais au nazisme lors de la Seconde Guerre mondiale. Ouille ! Comment vous dire ? Entre-temps, on a découvert que plusieurs fameux discours de Churchill ont été lus à la radio par une doublure. Apparemment, le Premier ministre n'avait pas le temps de se déplacer en studio, mais les mauvaises langues affirment que la mystification était rendue nécessaire par la consommation d'alcool du héros. Celles-là disent qu'il avait parfois l'élocution trop pâteuse pour jouer les héros du monde libre. À sa décharge, Churchill ne camouflait pas son penchant pour l'alcool. Il disait, il aimait même répéter « J'ai beaucoup plus profité de l'alcool que l'alcool n'a profité de moi. » Et gare à ceux qui en doutaient. Figurez-vous qu'un jour, et c'est ce que nous raconte Jean-Simon Gagné, il y a une députée qui lui avait reproché d'être saoul. Elle lui avait dit « Mais vous êtes ivre, cher monsieur. » Et Churchill lui avait répondu « Ma chère, je suis ivre, mais vous êtes laide. Et demain, je serai sobre, alors que vous serez encore laide. » On dira que les historiens n'en ont jamais fini avec Churchill récemment. Certains ont vérifié la rumeur, voulant qu'il ait expédié aux soviétiques une boîte de condoms sur laquelle il avait fait ajouter l'inscription « Extra petit ». Mais finalement, il s'agissait d'une légende urbaine. Dans la nuit du 24 juillet 2010, Laurent Raymond, 18 ans, sort d'un bar de Ville-Mont-Royal en compagnie de trois amis. Les quatre montent dans la voiture de Laurent. Laurent roule en fou, il prend le décor. Ses trois amis sont blessés. Laurent est accusé de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles, condamné en juin 2013 à 3 ans de prison. Un classique. Ça, c'est ce que nous raconte Mylène Moisan ce matin, qui poursuit en disant, c'est toujours dans le soleil du jour, après-midi du 3 septembre 2014, Simon Beaulieu patrouille dans le quartier Saint-Roch. Il recule vers et sur Guy Blouin, pour une raison que lui seul connaît, peut-être aussi son collègue à côté de lui. Le cycliste a été intercepté alors qu'il roulait à contresens dans la rue Saint-François-Est. Il a succombé à ses blessures 48 heures après. Un an plus tard, le policier vient d'être accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort et de négligence criminelle ayant causé la mort. Après-midi du 25 juin 2008, dans Saint-Sauveur, la mini-camionnette de Roberto Jiménez Torres est heurtée de plein fouet par une autopatrouille qui roulait à tombeau ouvert. Roberto rentrait chez lui avec ses deux petits-enfants. Il est resté branché aux soins intensifs pendant un an et demi. Il est mort. Les quelques témoins ont juré que les policiers n'avaient pas activé la sirène et les gyrophares. Les policiers ont juré le contraire. Aucune accusation n'a été portée. La veuve de Roberto n'a jamais pu lire les conclusions de l'enquête. C'est comme ça quand aucune accusation n'est portée. Il faut faire confiance aux policiers qui ont enquêté sur les policiers. Ça ne veut pas dire qu'ils ont bâclé leur travail, dit Mylène Moisan. Ça laisse un doute. Ils ont peut-être bâclé leur travail. Peut-être pas. En portant des accusations contre Simon Beaulieu, le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, rend service à la justice et à la police. Les policiers ne s'en rendent pas encore compte. Ils disent qu'ils ne pourront plus faire leur travail comme il faut, qu'ils vont vouloir protéger leur job et faire moins de zèle. C'est ce que des policiers de Québec ont expliqué mercredi à ma collègue Elisabeth Fleury. Ils ont qualifié la décision du DPCP de politique, laissant entendre que Simon Beaulieu était sacrifié sur l'autel de l'opinion publique, comme si cela était injuste, comme s'il était évident dans leur esprit qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Tant mieux si c'est ça. Nous nous approchons de la justice, écrit Mylène Moisan. Un juge pourra trancher si, en cet après-midi du 3 septembre 2014, Simon Beaulieu a fait sa job, b était dangereux ou c négligent. La veuve de Roberto aurait eu droit de savoir aussi. La police a tout à perdre en alimentant le doute. Thank you. Il y a des moments dans la vie où il est temps de fermer un chapitre pour en écrire un autre. Mes convictions ont toujours été les mêmes tout au long de ma carrière publique, que ce soit au niveau scolaire pendant 37 ans et au niveau municipal pendant 13 ans. Servir avec intégrité, objectivité, respect et rigueur, j'ai toujours agi dans l'intérêt de la collectivité avec justice et équité et en offrant la plus grande disponibilité, écrit Colette Roy-Laroche dans une lettre adressée à ses concitoyens que la Tribune publie de façon d'ailleurs intégrale en page 11. Madame Roy-Laroche a dû vivre le deuil de son mari Yvan Laroche, emporté par un cancer en février dernier. Elle dit « La perspective d'un autre mandat de 2 ans me ramène à revoir mes priorités. La somme de travail exigée à la mairie, particulièrement au cours des 2 dernières années, et la maladie et le décès de mon mari au cours de la dernière année, me dictent de ralentir, de prendre du repos, de penser à ma santé et à ma famille. » La charge de travail qui impose la responsabilité de maire est imposante à Lac-Mégantic, considérant les nombreux enjeux auxquels la municipalité doit faire face. C'est un travail à temps plein qui exige quotidiennement temps et énergie. Une responsabilité souvent puisée au sacrifice de la vie personnelle et de celle de ses proches. Et comme je ne peux pas et ne veux pas faire les choses à moitié, je fais le choix de me retirer de la vie municipale, a-t-elle écrit aux gens de Lac-Mégantic. Je laisse la place à ceux et celles qui ont le goût de mettre l'épaule à la roue pour la reconstruction et le développement de notre ville. Il y a eu évidemment de nombreux commentaires, hein. Beaucoup de gens ont réagi au fait que Madame Roy-Laroche s'en aille, tire sa révérence. Par exemple, Denis Coderre a écrit « Colette, c'est une boule d'énergie ». Elle aura été une inspiration sur ce que doit être le rôle du maire et de la mairesse. Elle nous a tellement inspirés. Elle a probablement vécu ce qu'il y a de pire en politique. Elle a démontré comment se comporter dans l'adversité. Elle a vraiment été admirable et fantastique.
Au quotidien, avec Clotilde de Seille.
Cost me too much money, and it probably ain't enough to get me through election day. Didn't I hear you say, it's all right, it's all right, it's all right. No, it wouldn't weigh a thing, it's hardly worth your time. My luck's been bad, the telephone just kept my only dime, and there might be a burglary. Why don't you just go and see? Be all right, be all right, be all right. It's all right, it's all right. Hey,
Oui, Election Times, évidemment, ça nous amène à la campagne électorale fédérale. Je vais commencer ce matin avec le journal de Montréal, jour 19, et M. Duceppe qui refuse de s'avouer vaincu. Selon un sondage CROP, le Bloc a perdu 16% d'appui au Québec au profit du NPD. Oui, il y a de quoi s'avouer vaincu. Eh bien non, le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, n'a pas l'intention du tout de se laisser distraire par les résultats des derniers sondages qui tentent à démontrer que son parti est en perte de vitesse au Québec. Il a affirmé hier après-midi qu'il restait encore 2 mois à la campagne électorale et que personne ne pouvait prédire l'issue du scrutin. Des prophètes, moi, j'en ai vu passer et j'ai rarement vu des bons prophètes 2 mois avant la fin d'une campagne, a-t-il déclaré aux journalistes quelques instants après être allé déposer son bulletin de candidature au bureau du directeur du scrutin. Je pense que nous avons une caricature aujourd'hui. Oh oui, je suis même certaine. Voilà, j'y arrive. Elle est signée Y ce matin qui nous présente... Ouais, c'est une idée qu'on avait déjà utilisée souvent, mais je pense que là, ça s'impose. L'effet PKP du CEP. Alors, on nous présente les visages de M. Péladeau et de M. Duceppe, mais qui sont en fait des ballons de baudruche qui sont en train de se dégonfler dans un... Vous savez comment ça fait quand un ballon se dégonfle. Maintenant également, je poursuis avec la campagne et j'ai trouvé un papier que j'ai trouvé intéressant dans le droit et c'est une chronique de Patrick Duquette. Qui nous raconte qu'il est allé déjà voter, mais en fait, et lui, il s'en aperçoit maintenant, il a voté trop tôt. Non, évidemment, je ne vous dirai pas pour qui j'ai voté. Alors, il nous raconte un petit peu comment ça s'est passé. Alors, il est entré à la suite d'une femme, dans un cubicule avec un grand bureau couvert de piles de formulaires et un isoloir dans le coin. Il a dû présenter une carte d'identité, on connaît ça, et signer un formulaire s'engageant à ne pas voter 2 fois à l'élection. Puis, une femme lui a présenté un bulletin de vote. Vierge. Effectivement, le bulletin est vierge, comme lui avait dit un collègue qui l'avait prévenu de cela. Alors, il a fait l'innocent. Il dit quoi? Mais il n'y a pas de nom. Il n'y a pas les noms des candidats. Il n'y a pas les noms des partis politiques. Et la femme a répliqué, à un stade aussi précoce de la campagne, le nom des candidats ne figure pas sur les bulletins de vote parce qu'ils ne sont pas encore enregistrés officiellement. Ah bon? Vous inscrivez le nom du candidat ou ses initiales, a-t-elle ajouté? Alors, il a pris son bulletin de vote, il est allé dans son isoloir et là, devant son bulletin, eh bien, M. Duquette, il a figé. « Toute ma mission de chevalier de l'information, j'avais oublié l'essentiel. Pour qui je vote au juste ? Parce que c'est là toute l'absurdité du vote hâtif. À quoi bon une campagne électorale de 80 jours si on peut voter dès le déclenchement des élections ? À quoi bon les débats des chefs, ces tournées des candidats à travers le pays, ces innombrables conférences de presse, ces meetings partisans ? Pourquoi lancer le vote si tôt, alors que dans bien des circonscriptions, y compris la mienne, les partis n'ont pas tous un candidat? Si le vote hâtif sert à stimuler la participation aux élections, c'est au prix de discréditer la pertinence d'une campagne électorale. J'étais dans l'isoloir, dit Duquette, et mon choix n'était pas arrêté. J'aurais dû renoncer. Mais allez savoir pourquoi. J'ai fini par rédiger quelque chose à la main sur mon bulletin vierge. Je suis ressorti du bureau de vote vaguement déprimé, avec l'impression que je quittais le stade avant même le début de la partie. Alors, dans la presse, M. Mulcair est apparemment assez encouragé par les résultats. Le chef du NPD se réjouit des résultats d'un sondage CROP La Presse publié hier. Ça faisait la une de tous les journaux, qui accorde une large avance à sa formation politique dans les intentions de vote au Québec. Mais il affirme qu'il ne tient rien pour acquis, d'autant qu'il ne reste encore que... Il reste encore 2 mois de campagne avant le jour du scrutin. De passage à Vancouver, hier midi, M. Mulcair a fait savoir que les sondages ont fluctué au fil des semaines et que cela signifie qu'aucun parti ne peut s'endormir sur ses lauriers. Ces résultats sont très encourageants, mais les appuis dans les sondages vont monter et descendre d'ici au jour de l'élection. Mais nous savons que nous avons 2 mois de travail intense devant nous avant le jour du vote. Nous pensons tout de même que les résultats du sondage sont le fruit du dur travail réalisé par notre équipe de députés au cours des 4 dernières années au Québec. Ces députés ont établi des racines pour notre parti, mais nous ne tenons rien pour acquis, a affirmé M. Mulcair. Au niveau du Parti libéral du Canada, une leader autochtone se présente dans Terrebonne. C'est une surprise chez les libéraux. Malgré sa défaite à l'investiture dans Manicouagan sur la Côte-Nord, le Soleil a appris que Justin Trudeau fera confiance à la leader autochtone Michèle Audette dans Terrebonne. La candidature de l'ex-présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada doit être officialisée aujourd'hui. « Oui, c'est vrai que j'ai accepté ce grand défi », a confirmé la principale intéressée qui honorait depuis mai un mandat pour l'École nationale d'administration publique de Québec, autrement dit l'ENAP. Et puis, en bref encore, donc je vous le disais, Duceppe officialise sa candidature. Hein, ce n'était qu'une formalité, mais c'est maintenant officiel. Il est candidat du Bloc québécois dans son ancienne circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Le chef bloquiste qui a déposé son bulletin de candidature en bonne et due forme hier après-midi au bureau du directeur du scrutin sur la rue Sherbrooke. Gilles Duceppe entend donc prendre sa revanche contre la députée sortante du NPD, Hélène Laverdière, qui avait réussi à le déloger de son fief montréalais en 2011, à la grande surprise de tous. Le chef bloquiste a régné sans partage sur sa circonscription de 1990 à 2011. Et puis au Parti conservateur, un candidat a été remercié en raison de propos sexistes. Le candidat conservateur dans la circonscription de Rosemont-Petite-Patrie a été remercié hier par le Parti conservateur pour avoir écrit des propos jugés sexistes sur Internet l'an dernier. « J'ai été remercié par le parti », a confirmé Gilles Guibord à la presse. L'ex-candidat a refusé d'expliquer pourquoi on lui avait montré la porte. Il n'est plus candidat, il a quitté. C'est limité à dire. La porte-parole du Parti conservateur, Catherine Loubier. Dites-moi les amis, est-ce que vous connaissez bien vos dirigeants politiques? Parce que j'ai des petites surprises pour vous. Alors toujours dans la presse, figurez-vous qu'il y a un sondage, croppe la presse, qui nous dit que 1 Québécois sur 5 ignore qui dirige le pays. Quelque 20% des Québécois ignorent que c'est le Parti conservateur qui tient les rênes du pouvoir à Ottawa, suggère un nouveau sondage de la maison Crop pour le compte de la presse qui teste les connaissances politiques de la population. Une étude qui soulève des questions cruciales, évidemment, à 2 mois du scrutin fédéral, nous dit Philippe Tesquera-Lessard. Quel parti forme le gouvernement fédéral? Qui est le chef du Parti libéral du Canada et celui du nouveau Parti démocratique? La plupart des questions, toujours à choix de réponse, posées par les maisons de sondage, détectaient un bon cinquième de répondants ignorants des données de base sur la politique fédérale. C'est bas, mais on note qu'il y a souvent une confusion dans la tête des gens entre le provincial et le fédéral, a commenté Youri Rivet de Crop. C'est ce qui pourrait expliquer que 8% des répondants pensent que Pierre-Carl Péladeau mène le Bloc québécois ou que la même proportion pense que les libéraux détiennent le pouvoir à Ottawa. Moi, je pensais qu'il n'y avait que les étrangers qui arrivaient, qui mêlaient le fédéral et le provincial. Moi, je vous avouerai qu'il y a 30 ans, quand je suis arrivé, là, je ne comprenais rien. Quand on me parlait du ministre de l'Éducation, je pensais que c'était un tel, mais on me disait « mais non, au fédéral ». En tout cas, oh, c'était pas évident. Mais bon, au bout de 30 ans quand même, ça y est. Eh ben nous, non, c'est ça. Ici, il y a encore beaucoup de gens qui sont complètement mêlés. C'est fou, hein. Les répondants de 18-34 ans et ceux de sexe féminin étaient substantiellement moins bien informés que les autres, a conclu Crop. Ainsi, seulement 72% des femmes sondées savaient qu'elles étaient dirigées par un gouvernement conservateur contre 89% des hommes. Ces chiffres diminuent encore davantage chez les jeunes. En effet, seuls 68% des répondants de moins de 35 ans le savaient, contre 79% des 35-54 ans et 91% des 55 ans et plus. André Blais, professeur à l'Université de Montréal, spécialisé en études électorales, a mené des recherches sur le lien entre connaissances politiques et participation au processus démocratique. Selon ses analyses, plus les jeunes ont des connaissances sur la chose publique, plus ils seront portés à se rendre dans un bureau de vote lors du jour J. C'est sûr qu'il y a un lien, a-t-il affirmé en entrevue téléphonique. Ce n'est pas le seul facteur, mais c'est certain qu'il y a un lien. L'influence relative de ce facteur-là par rapport à d'autres, ce n'est pas simple à évaluer. La méthodologie a été réalisée. Le sondage a été réalisé auprès de 1000 répondants du 12 au 17 août par le truchement d'un panel web. Les résultats ont été pondérés pour refléter la distribution de la population adulte du Québec compte tenu du caractère non probabiliste de l'échantillon. Le calcul de la marge d'erreur ne s'applique pas. Alors, en exergue de cette campagne électorale, il faut revenir sur le procès Duffy, et c'est ce que fait justement Marie Vastel dans Le Devoir. Et elle nous écrit que l'ancien conseiller juridique de Stephen Harper était fort attendu au procès de Mike Duffy pour cause. Benjamin Perrin a réitéré jeudi avoir été témoin du fait que l'actuel bras droit de M. Harper, Ray Novak, savait que Nigel Wright avait payé la dette du sénateur. M. Perrin a aussi mis en doute l'interprétation qu'avait Stephen Harper des critères d'éligibilité des sénateurs. La nouvelle avait fait grand bruit mardi. On apprenait que M. Perrin avait indiqué en entrevue avec la GRC en 2014 que M. Novak était au courant du stratagème envisagé pour que Mike Duffy rembourse le Sénat. Jeudi, M. Perrin a confirmé sous serment le fil des événements survenu en 2013. Il préparait M. Wright à un appel avec l'avocate de M. Duffy. À un moment donné, pendant que je résumais cette information, Ray Novak est entré dans le bureau de M. Wright et il s'est assis au bout de la table. M. Perrin expliquait que l'appel avec l'avocate du sénateur, Janice Payne, serait difficile car elle s'impatientait et menaçait que son client ne rembourse plus, mais subisse plutôt l'enquête de Deloitte en espérant une issue favorable. Rendu là, M. Wright est intervenu. Il a dit que le sénateur Duffy allait aller de l'avant et rembourser ses dépenses parce que je vais les payer pour lui. Et c'était la première fois que j'entendais cela. Alors j'ai été très surpris de cette déclaration de sa part. Et comme c'était une surprise pour moi, j'ai regardé à ma droite pour voir la réaction de M. Novak. Il n'a pas eu de réaction à cette information. L'appel a ensuite débuté en moins d'une minute. On n'a pas fini avec cette histoire-là, mes amis, c'est certain. Également dans Le Devoir de ce matin, en page 3, on nous dit que M. Mulcair a déjà dénoncé des pratiques syndicales. On nous raconte, c'était le lundi 19 décembre 1994, il se faisait tard lorsqu'à peine élu à l'Assemblée nationale à titre de député libéral de Chaumédé, Thomas Mulcair s'est levé en chambre pour critiquer le projet de loi 46 présenté par la ministre péquiste de l'Emploi, Louise Arel. La mesure législative visait notamment à redonner le titre de syndiqué à 25 000 travailleurs de la construction ayant perdu ce statut l'année précédente, dans la foulée de l'adoption de la loi 142 régissant les conditions de travail dans l'industrie de la construction. Elle donnait ainsi suite à une promesse électorale péquiste visant à scraper la loi en question. Loin de se réjouir de la syndicalisation prochaine de travailleurs, Thomas Mulcair tire à boulets rouges sur ce projet de loi. Il a dit « La seule considération qui a présidé à l'élaboration du projet de loi 46 n'est pas la protection de l'intérêt public, c'est de payer ce qui est dû à des intérêts non pas corporatifs, mais syndicaux », avait-il déclaré à l'époque. Évidemment, ça la fout mal un petit peu. Lui qui est à la tête en ce moment du NPD, et qu'il navigue la main dans la main avec les syndicats, ce que lui reprochent d'ailleurs d'autres partis. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, j'aurai très rapidement. Monsieur Trudeau promet plus de flexibilité pour les aidants naturels. Les aidants naturels l'ont souvent décrié. Il est odieux d'avoir approuvé la mort imminente d'un proche pour pouvoir se qualifier aux prestations de compassion de l'assurance-emploi. C'est donc à eux que pense le chef libéral Justin Trudeau avec sa dernière promesse. Sous un gouvernement libéral, le congé deviendrait accessible à toute personne ayant besoin de s'occuper d'un être cher gravement malade, qu'il soit mourant ou pas. Dans quelques secondes, quelques mots de sport. Rarement un match contre l'Union de Philadelphie aura suscité un tel intérêt à Montréal. Non seulement il est primordial que l'Impact retrouve le chemin de la victoire, mais demain soir, il entrera enfin dans l'ère Didier Drogba. Tout au long de la semaine, le joueur désigné ivoirien a accéléré le rythme à l'entraînement et il a poursuivi son intégration au sein du vestiaire. Il semblerait qu'il fasse déjà l'unanimité. Je vous rappelle que son prochain match, le premier qu'il devrait jouer sous les couleurs de l'Impact, ce serait demain soir. Vendry Lefebvre dit au sujet de Drogba, c'est un super gars. Il vient, il parle avec tout le monde, même si c'est évident qu'avec la proximité de la langue, on se parle souvent entre francophones. C'est aussi un leader naturel, apparemment. Marco Donadel a raconté une anecdote révélatrice à cet égard. Durant un tour de terrain lors de l'échauffement, Drogba a demandé au retardataire d'accélérer la cadence afin que le groupe reste proche et compact. C'est un joueur d'équipe et il est humble. Quand il entre dans le vestiaire, ce n'est pas Drogba la superstar, mais un joueur de l'Impact qui veut tout faire en son pouvoir pour améliorer l'équipe, renchérit Franck Klopas. C'est ce qui est bien chez lui. Il est arrivé avec la bonne mentalité. Espérons maintenant qu'il marque des buts et qu'il ne déçoive pas. Ce serait dommage, quoi, les nombreux supporters. Ce garçon de 20 ans s'apprête à courir contre les meilleurs sprinteurs de la planète au championnat du monde d'athlétisme présenté à Pékin. Et son nom, c'est André de Grasse. André de Grasse est son je ne sais quoi. Je ne pense pas qu'il soit intimidé par Tyson Gay, triple champion du monde, ou Bolt, a déclaré son entraîneur Tony Sharp. Il ne parle jamais de Justin Gatlin, Bolt ou Powell, jamais. Ce genre de naïveté ne peut pas nuire. Parfois, ça enlève un peu de pression. Eh bien, c'est en raison de cet inexplicable je ne sais quoi que De Grasse a pu remporter le 200 mètres des Jeux panaméricains le mois dernier à Toronto, même s'il s'était lancé pour cette sixième course en trois jours du huitième couloir. Je n'ai pas peur de dire que ce 200 mètres est la plus incroyable course livrée du couloir numéro 8 que j'ai vue dans ma vie, a dit Sharp. Habituellement, quand le coureur du corridor extérieur est rattrapé par les autres, c'est terminé. Mais il n'a jamais abandonné. Il est venu de l'arrière avec 10 mètres à franchir. Ça n'arrive jamais, jamais. Autrement dit, on va suivre la course de ce monsieur de Grasse alors qu'il va se mesurer au plus grand champion d'athlétisme au monde et plus particulièrement au coureur du 100 mètres. On s'en va à l'international dans quelques secondes. Alors à l'international, c'est assez incroyable, mais c'est vrai, Jean-Marie Le Pen a été exclu du parti qu'il a fondé. L'effort de dédiabolisation engagé par Marine Le Pen pour permettre au Front National de gagner plus encore en popularité a finalement eu raison de son père, écrit Marc Thibaudeau de La Presse. Le bureau exécutif de la formation d'extrême droite française a décidé hier, à l'issue d'un conseil disciplinaire où il était convoqué, d'exclure Jean-Marie Le Pen du parti qu'il a fondé il y a 40 ans. Dans un bref communiqué, les membres du bureau exécutif ont précisé qu'une décision complète et motivée à ce sujet serait transmise prochainement aux politiciens controversés. Au cœur du litige figurent de récentes interventions médiatiques de Jean-Marie Le Pen, durant lesquelles il a notamment réitéré que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il avait également exprimé de l'admiration pour le maréchal Pétain, qui chapeautait le régime collaborationniste de Vichy durant le conflit. L'avis de convocation au conseil disciplinaire faisait aussi état d'attaques publiques contre les dirigeants du parti. Il avait notamment déclaré qu'il avait honte que sa fille porte le même patronyme que lui. Selon l'agence France-Presse, Jean-Marie Le Pen s'est montré incisif à son arrivée hier à l'audience, déplorant le fait que sa fille ait décidé de ne pas y assister pour ne pas être juge et partie. Il a fustigé par ailleurs dans un communiqué la compétence et l'indépendance du bureau exécutif qui était déjà largement acquis aux positions de sa fille. Le conseil disciplinaire avait des airs de déjà-vu puisque ses membres avaient décidé il y a quelques mois de suspendre Jean-Marie Le Pen et de lancer une consultation auprès des membres du Front National pour abroger la position de président d'honneur qu'il occupait. Le politicien avait réussi avec succès à contester ses décisions en s'adressant aux tribunaux, forçant le parti à tout reprendre du début. L'avocat de Jean-Marie Le Pen avait fait savoir avant même l'annonce de la décision d'hier que son client tenterait de renverser toute nouvelle sanction. Le principal intéressé a confirmé l'imminence d'un recours par la suite, se disant victime d'une chasse aux sorcières. L'autre grande nouvelle à l'international ce matin, c'est bien sûr l'annonce qu'il a faite hier de démissionner. J'entends par là, par ce « il », le Premier ministre de la Grèce, Alexis Tsipras. Et il y a ce papier de l'agence France Presse qui circule dans les journaux ce matin, qui nous dit ceci. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras n'a pas perdu de temps jeudi après avoir obtenu le versement de 23 milliards d'euros dans le cadre du nouveau plan d'aide à la Grèce. Il a démissionné pour espérer raffermir sa base lors de nouvelles élections. Maintenant que ce cycle difficile est terminé, je voudrais soumettre à votre jugement ce que nous avons accompli, a déclaré M. Tsipras lors d'une courte allocution télévisée vers 20h30, disant avoir la conscience tranquille et assurant d'avoir résisté aux pressions et aux chantages. Il est ensuite allé présenter sa démission au président de la République, Prokopis Pavlopoulos. Selon son entourage, M. Tsipras souhaiterait que le scrutin se tienne le 20 septembre. Cette annonce, qu'on n'attendait pas si tôt, n'est cependant pas une surprise. Après avoir été élu en janvier sur un programme critiquant les deux précédents plans d'aide, mémorandum, imposés au pays en 2010 et 2012 pour un montant total de 240 milliards d'euros, M. Tsipras a fini par en signer un troisième à son tour le 13 juillet pour éviter à son pays d'être peut-être expulsé de la zone euro. Lors du vote de ce plan, le 14 août, au Parlement, l'opposition l'a soutenu, mais 43 des 149 députés de Syriza sont partis de gauche radicale, fidèles à leurs idées et, pour certains, favorables à un retour à la drachme, ne l'ont pas suivi, votant contre ou s'abstenant. Alors, c'est à suivre le 20 septembre prochain. Il dispose d'un atout maître pour cette deuxième élection en moins de 18 mois. La loi grecque dispose que les partis ne soumettent pas au vote des députés individuels, mais des listes par parti composées par les états-majors de ces derniers. C'est ainsi que M. Tsipras pourra se débarrasser des plus virulents à sa gauche. Sans aucun doute, l'ancien ministre de l'Énergie, Panagiotis Lafazanis, le leader des contestataires, et certainement la puissante et pointilleuse présidente du Parlement, Zoé Constantopoulos. Les créanciers ne cacheraient d'ailleurs pas leur joie à la perspective de voir M. Tsipras allégé de ses anciens amis, Marcel Fratscher, économiste allemand, qui conseille Sigmar Gabriel, le ministre de l'économie allemand, a considéré également que ces élections sont une bonne nouvelle économique. Selon lui, il y a de bonnes chances qu'elles amènent au pouvoir un gouvernement plus compétent et davantage pro-européen. Et puis quelques nouvelles étrangères. En bref, Jimmy Carter entame une radiothérapie. L'ancien président des États-Unis et prix Nobel de la paix, Jimmy Carter, 90 ans, a annoncé hier lors d'une conférence de presse qu'il entamait une radiothérapie pour traiter des tumeurs cancéreuses au cerveau. Conférence de Paris sur le climat. À trois mois de la conférence mondiale de Paris sur le climat, François Hollande a fait monter la pression hier en affirmant qu'un échec serait une catastrophe pour la planète et en insistant sur la nécessité d'aider financièrement les pays émergents ou en voie de développement. Et puis sinon, on nous dit que la Corée du Nord serait sur le pied de guerre et que, en ce qui concerne les législatives en Haïti, le taux de participation aurait été de 18%.
Au quotidien, avec Clotilde Seille.
Et puis, culturellement parlant, de quoi est-il question dans les journaux du jour ? Tout le monde en parle ce matin. J'ai choisi le Journal de Montréal parce que de toute façon, ça vient de l'AFP. On parle d'une exposition qui est qualifiée de lugubre. Elle s'appelle Dismaland. Dismaland est une exposition complètement iconoclaste, coordonnée par l'artiste mondialement connu Banksy, qui se veut une parodie subversive des parcs d'attractions. Ça ouvre samedi dans l'enceinte d'une ancienne piscine de plein air de Weston-super-Mare, une station balnéaire proche de Bristol. Alors, par exemple, une réplique brûlée du château de Disneyland, une Cendrillon morte dans un accident de carrosse et encerclée par des paparazzi, un manège de chevaux dont l'un pendouille sous un boucher assis sur des caisses labellisées « lasagne » ou encore un ancien camion de la police utilisé en Irlande du Nord, transformé en glissade pour enfants. Voici quelques-unes des attractions de Dismaland. Dès l'entrée, il y a le nom du parc, fusion de Dismal, qui veut dire lugubre en anglais, et Disneyland, annonce la couleur ainsi que son sous-titre Bemusement Park, donc parc confus, et son slogan, la nouvelle attraction britannique la plus décevante. L'exposition réunit des œuvres de Banksy et d'une cinquantaine, j'espère qu'on ne dit pas Banksy. D'une cinquantaine d'artistes tels que les Britanniques, Damien Hirst et David Shirley, les Espagnols Essif et Paco Pomet, en tout cas, et d'autres comme l'Américaine Jenny Holzer. Ce n'est pas un coup contre Disney, a assuré l'artiste lors d'une visite en avant-première et un petit comité hier. C'est un parc thématique dont le thème principal est que les parcs thématiques devraient traiter de thèmes plus sérieux. C'est une vitrine des meilleurs artistes possibles, a ajouté l'artiste originaire de Bristol. Alors l'exposition, qui sera ouverte du samedi 22 août au dimanche 27 septembre, met ainsi en scène des sujets d'actualité avec par exemple une sculpture représentant des migrants dans des bateaux. Personnage mythique de la scène graffiti, Banksy, dont ni l'identité ni le visage ne sont connus, s'est livré à plusieurs actions spectaculaires. Par exemple, en début 2015, il s'était rendu clandestinement à Gaza pour réaliser des graffitis dénonçant les conditions de vie des habitants. J'ai un peu hésité avant de vous parler de cette lecture dont nous parle, je ne sais pas qui, c'est Hugo Pilon-Larose, voilà, dans la presse. C'est un homme qui a écrit, semble-t-il, le roman de l'été. C'est un roman policier aux péripéties osées et il semblerait que ça cartonne ces jours-ci au Québec. Ça s'appelle La Justicière et c'est l'histoire d'une dominatrice sadomasochiste qui pourchasse les criminels impunis afin de les assassiner. Et depuis près de 15 semaines, ce livre figure au sommet des palmarès de vente en librairie, mais aucun critique ne s'y est encore intéressé. Son auteur, c'est Marc Aubin. Il est très connu, il est complètement inconnu des cercles littéraires. Alors on se demande, mais qui est-il et que vise-t-il ? Et là, on le voit... Il est appuyé sur une voiture qui fait la publicité, mais vraiment une énorme publicité, sur ce roman policier qui s'appelle, je vous le rappelle, La Justicière. Et il nous dit, cet homme, ce Marc Aubin, que La Justicière, c'est un projet « think big ». L'auteur des prochaines lignes, nous dit Hugo Pilon-Larose, n'est pas un homme de lettres. Pourtant, depuis le début de l'été, son premier roman connaît un immense succès populaire à tel point que le livre pourrait bien être en rupture de stock. Je vous en lis juste quelques lignes, mais quelques mots, mais je n'irai pas très loin, je vous le dis. À l'occasion, c'est donc un extrait du livre, j'imaginais un homme nu rampant à mes pieds, m'implorant de lui permettre de lécher mes orteils parfaitement manucurés, alors que je reculais peu à peu, prenant soin de garder mes distances, etc., etc., etc. Mais là, on parle de sexe épinglé contre le plancher, en tout cas, voilà. Et c'est donc extrait de La Justicière, ce roman qui se veut un roman érotico-sadomaso-policier, écrit par cet homme d'affaires de Terrebonne, Marc Aubin. Et quand on lui demande ses liens avec la littérature, il répond sans gêne n'avoir jamais été un grand lecteur. Cela ne l'a toutefois pas empêché d'écrire ce roman qui cartonne, parce que c'est un best-seller. C'est sorti le 15 mai. Le livre n'a depuis jamais quitté le top 10 du palmarès Gaspard. Il dit « Cet homme, j'ai blogué longtemps par plaisir, puis un jour mon épouse m'a dit « Marc, tant qu'à consacrer une heure par jour à l'écriture, pourquoi n'écrirais-tu pas un roman ?» Alors il a écrit 5 chapitres avant de délaisser quelque temps le projet, puis de le reprendre. Et pendant 2 ans, l'homme d'affaires, devenu auteur, a consacré tout son temps libre à écrire, à retravailler, à peaufiner son récit. Et pour ce faire, ce diplômé en neurobiologie de l'Université McGill a fait appel à 2 coachs littéraires, 3 réviseurs linguistiques et 3 correctrices. Et cet objectif était clair. Il voulait écrire un succès commercial très addictif, et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Son récit garde un bon rythme, et la nature du sujet, le sadomasochisme meurtrier, est pour le moins intrigant. Ensuite, avec les moyens qu'il a investis dans la mise en marché, il ne doutait pas du succès qu'il aurait, a affirmé Nadia Gosselin, la conseillère littéraire pour La Justicière. Je me disais, en lisant ça, vous savez, il y a M. Michel Tremblay qui est quand même un des auteurs, pour ne pas dire l'auteur avec un grand A, l'écrivain avec un grand E, le plus célèbre et le plus célébré au Québec, qui a fait une crise assez récemment contre Serge Postigo, qui a ouvert les auditions pour Mary Poppins à des jeunes amateurs qui n'ont pas d'agent artistique, plutôt qu'à la communauté artistique, en bonne et due forme, tous inscrit à l'UDA. Mais je me disais, qu'est-ce qu'il en pense, M. Michel Tremblay, de ça? Parce que là, il me semble qu'il y a vraiment de quoi sortir de ses gonds. Parce que c'est quand même incroyable de créer comme ça un succès populaire juste par business, alors que t'en as qui crèvent de faim là, à écrire des livres absolument merveilleux, que j'inviterai d'ailleurs à l'émission Des livres plein les oreilles, puisque cette année, à Livre Découvert n'existe plus. Et donc, c'est bienvenu, Des livres plein les oreilles. Mais en tout cas, j'en reviens à ces auteurs qui crèvent de faim. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité avant de faire état de cela, parce que je me suis dit, est-ce qu'il faut encore en plus faire de la publicité pour ça? Mais en même temps, bon, c'est dans les journaux. Parlons de ces 2 jeunes comédiennes tout à fait ravissantes et rafraîchissantes et qui font le bonheur des Français avec qui elles tournent en ce moment. Sarah-Jeanne Labrosse et Mylène Saint-Sauveur qui sont en tournage à Paris. C'est le tournage d'Un jour mon prince, Point de suspension, une coproduction franco-canadienne où elles incarnent toutes deux les rôles cruciaux de fées québécoises envoyées en mission dans la métropole française, ville de l'amour, en quête d'un prince pour la belle au bois dormant. Et la presse les a rencontrées entre 2 prises. Marie-Claude Lorty, qui semble décidément, je pense, avoir été envoyée en poste à Paris hein, pour le compte de la presse, nous raconte une rencontre. Il fait maintenant noir sur Paris, écrit Marie-Claude Lorty, donc le tournage avec les dromadaires peut commencer. Sarah-Jeanne Labrosse brave le froid malgré sa tenue légère de fée en goguette dans la ville lumière. Elle s'approche des bêtes 1 fois, 2 fois, 3 fois en faisant toujours la même scène, le même numéro, de plus en plus folle, de plus en plus drôle. Et alors qu'elle ne s'y attend pas du tout, le dromadaire fait un geste de la tête comme s'il voulait la croquer. L'actrice part en courant et en criant, tout le monde rit, en commençant par la comparse de Labrosse, sa grande amie Mylène Saint-Sauveur, elle aussi personnage crucial du film « Debout, un peu plus loin ». On est au beau milieu de la nuit, on gèle, mais sur la passerelle piétonne, au-dessus de la scène et au pied de la tour Eiffel, qui sert de plateau au film « Un jour mon prince », l'atmosphère est joyeuse et les 2 jeunes femmes propagent la bonne humeur. Elles sont géniales, elles sont généreuses, elles n'ont pas peur du ridicule, elles sont formidables, dit Flavia Coste, la réalisatrice de ce long métrage coproduit par Crystal Film au sujet des deux artistes québécoises. Tellement trop d'actrices françaises ont peur de faire ça. Elles ont été embauchées pour incarner des fées, la blonde et la brune, la sage, la faux-folle, deux rôles principaux de cette comédie fantastique brodant sur le thème de La Belle au bois dormant qui prendra l'affiche en 2016. Un film de filles en France, à Paris, pendant presque tout l'été. Je ne vois pas ce que je pourrais dire de négatif, explique Sarah-Jeanne Labrosse pendant un tournage sur le pont de Bir Hakeim, où tous les nouveaux mariés viennent se faire photographier. Elle a le ton de celle qui se pince encore d'avoir eu tant de chance. Quant à Mylène Sauveur, elle a déclaré « Moi, je ne veux plus partir. C'est drôle qu'on soit ici pour faire un film de fées. Tout est absolument magique. » Mais bravo les filles. Je finirai avec ceci parce que j'ai trouvé ça vraiment sympathique. On parle de jeunes de la relève qui espèrent créer un espace de discussion mixte avec un nouveau festival sur l'héritage, mais le patrimoine culturel mobilier, je veux dire les murs, quoi, tous les établissements, tous les musées. On parle justement, tenez, de la maison Alcan là, qui doit être détruite. Et Florence Saragé Ferrari, je ne sais jamais comment prononcer ce nom-là, mais j'imagine que c'est comme ça, parce qu'on ne sait pas le G, à quoi ça correspond. Bonjour Christiane, ça va bien? Vous, dans votre grande culture?
Oui, ça va très bien. Ouais, mais je ne sais pas la réponse à cette question.
Non plus, hein? Ben non, ben je vous en prie. Alors, un nouveau venu fait ses premiers pas cette fin de semaine dans l'univers éclaté et coloré des festivals montréalais, organisé par une relève en mal de parole. Vivre le patrimoine est l'occasion pour des jeunes d'affirmer leur intérêt pour le bâti, tout en questionnant sa raison d'être. Du marché Saint-Jacques sur la rue Ontario-Est à la Fonderie Darling, lieu emblématique de Griffintown, en passant par le controversé Square Vigée, le patrimoine urbain ponctue la ville. Pareil à une courte pointe qui tisse les liens entre les quartiers, le bâti est un rappel concret de l'histoire de la métropole. Ce sont ces archives qui seront à l'honneur toute la fin de semaine dans le cadre du festival Vivre le patrimoine. Ça a été mis sur pied par un groupe de jeunes acteurs engagés dans la conservation du patrimoine urbain, avec le soutien de l'Association canadienne des experts conseils en patrimoine. Et cet événement permettra à la relève de prendre la parole sur des enjeux où les experts ont souvent cumulé de nombreuses années d'expérience. C'est l'occasion pour les plus jeunes qui s'intéressent de plus en plus à ces enjeux de prendre leur place dans le débat, insiste Mallory Wilson, l'une des instigatrices. Le patrimoine est à la fois une trace du passé, un repère temporel et un moyen de se protéger dans le futur, a renchéri sa collègue Hélène Santoni, responsable des communications pour le festival. Alors, la programmation qui prend son envol le vendredi soir, ce soir, est donc ancrée dans ce désir de bâtir des ponts entre les générations. Au menu, classique balade dans les villes, ateliers pratiques, expositions et conférences, entre autres choses. L'idée est surtout d'inviter les gens à repenser le patrimoine urbain, à le prendre sous un autre angle. Vivre le patrimoine, c'est du 21 au 23 août, donc c'est vraiment toute la fin de semaine. Et puis l'usine C souffle 20 bougies, l'institution vouée à la pluridisciplinarité artistique a dévoilé sa programmation anniversaire. Pardon d'avoir un petit sourire, mais ça nous arrive, ce que vous voulez parfois, d'avoir des petits moments de complicité. On recevait jeudi soir à l'usine C beaucoup de monde, du beau, du grand et pour cause. Le dévoilement de la programmation de la prochaine saison était également l'occasion de célébrer les 20 ans de l'institution montréalaise avec une plaque commémorative à l'appui. La ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, et le président et directeur général du Conseil des Arts et des Lettres du Québec, Stéphane Laroche, étaient au nombre des dignitaires présents, nous raconte François Lévesque dans Le Devoir. À l'époque, le mandat qu'envisageaient d'emblée les cofondateurs Gilles Maheu et Daniel de Fontenay était clair, créer un espace multidisciplinaire offrant aux artistes les latitudes essentielles à leur travail de création. C'est très émouvant pour moi ce dévoilement, ce moment, a confié Daniel de Fontenay au Devoir peu avant le début de la soirée. J'éprouve surtout de la gratitude envers les différents organismes et instances qui nous ont soutenus au départ, envers les créateurs d'ici et d'ailleurs qui sont passés par l'usine, envers les artistes surtout, qui se trouvent au cœur de cette incroyable aventure qui a débuté avec Espace Libre, qui a duré près de 13 ans, et Carbone 14, qui nous a vu faire de la tournée partout dans le monde pendant 20 ans. À cet égard, je dis toujours que l'usine C, c'est la fille d'Espace Libre et de Carbone 14, où on a énormément appris en matière de revendication, de liberté de création et de l'importance de l'outil de travail. Nos programmations successives rendent entre autres compte de l'exigence de Gilles Maheu, avec qui on était dans la pluridisciplinarité. Un autre mot que je me suis trouvé, que j'arrive pas à dire, dis donc. Pluridisciplinarité, voilà, avant l'heure. On mariait la vidéo, la musique, la danse, le théâtre, c'est vrai. Hein. Je parle d'il y a 30 ans, mais c'est toujours au rendez-vous. Ils vont présenter, par exemple, Shakespeare s'amènera avec un Macbeth d'Angela Conrad, de traduction de Michel Garneau, un espèce de Capharnaüm rock en forme de critique acerbe de la culture néolibérale contemporaine. C'est toujours très, 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 très mélangé, très, très mixte, hein, leurs univers. On parle toujours de théâtre et de danse et de... Hein, c'est vraiment ce qui fait leur... Il y aura aussi, justement, parlons danse, The Dog Days Are Over, la plus récente chorégraphie de Jean Martens, une symphonie du saut aussi douloureuse qu'extatique, apparemment. Et puis, on parle aussi d'un documentaire qui sera proposé, une réflexion politico-poétique sur l'exploitation de la précieuse ressource. De quelle ressource s'agit-il? Bien évidemment, de l'eau. Ça s'appelle « Le partage de l'eau » et c'est dû à Annabelle Soutard. Également, la chorégraphe Catherine Godet va terminer l'année 2015 avec « Au sein des plus raides vertus », une œuvre où seront révélées les chairs qui frémissent sous le vernis des conventions. On peut imaginer que, là encore, ce sera très multidisciplinaire. Voilà, c'est là-dessus, moi, que je vais refermer ce magazine au quotidien pour ce matin. Merci beaucoup, Rémi Hermoso, d'avoir été en ma compagnie. Et puis, je cède le micro à ma camarade Christiane Campagna. J'en profite, Christiane, pour vous dire bonjour.
Bonjour.
Et pour vous souhaiter une belle fin de semaine.
Merci beaucoup. Et vous pareillement, madame.
Merci beaucoup, Christiane. Salut.